je me pose toujours la question de comment on peut construire son univers gustatif et son univers affectif en général en poussant un chariot et en ayant des produits qui mentent.
CO2, mon amour.
C'est-à-dire que quelque part, quand t'achètes un produit transformé, un emballage, c'est beau, ça te fait saliver. Et quand tu l'ouvres, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que t'as pas ce même plaisir que ça te procure intellectuellement.
Denis Chessou.
Les gamins, ils construisent tout leur univers sur du mensonge.
Ah ben vous voyez, elle a pas justement sa langue dans sa poche. C'est donc Marie Morage que l'on va retrouver dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Lucas Vaillant et Sacha Trop à la technique. Je n'oublierai pas Albert Houck et assisté de Camille Blanès et Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Ah, une petite humeur en forme d'actualité. Je peux vous dire que moi, le soldat glyphosate est mon inséparable adjuvant-chef. On n'a pas du tout apprécié jeudi dernier cette remise des trophées zéro phyto aux communes, collectivités et autres lycées de Bretagne. Oh que non, on nous déclare la guerre. Ah bah oui, cette manie qu'a depuis 2009 la région Bretagne, avec le soutien de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, de récompenser les communes qui cherchent à nous bannir, nous, les pesticides. Ah bah ça nous donne des boutons. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, on va pas féliciter ceux qui trouvent des solutions alternatives à l'usage des pesticides. On croit rêver. Aujourd'hui, plus de 220 communes sont lauréates, soit 750 000 habitants, 21% de la population bretonne. Il y a même des communes qui ont inventé des machines à désherber, à sarcler, qui ont déposé un brevet, comme la Plourazette à Plouer-sur-Rance, 3500 habitants, la Lanisquette à Lanisca, 800 habitants, j'en passe et des pires. Ah bah oui, quand on voit ces mauvaises habitudes qui s'étendent chaque année davantage, on se dit qu'on a du mouron à se faire, nous, hein, le glyphosate, oui, à vous dégoûter de reprendre du quinium. Oui, je prononçais correctement une autre fois. Comme si l'on pouvait se passer de nous et de nos copains, les engrais azotés et phosphorés. Enfin, mais dans quel monde vivez-vous? Vous ne lisez pas FNSEA Magazine ou quoi? Hein? Vous n'êtes pas entre les mains des coopératives qui n'en ont plus que le nom et qui sont devenus des groupes financiers maintenant? Et voilà, donc cette hérésie du zéro phyto pour les collectivités, maintenant, on ne pense plus développement d'abord, mais qualité de l'eau d'abord, puis développement du territoire. L'eau est donc la condition du développement et non l'inverse. Ça, c'est la politique, c'est vrai, de la région Bretagne. Comme si l'eau pouvait incarner la clé d'un développement futur. Et allez donc, on met maintenant la rivière avant les bœufs, les volailles et les cochons. Franchement, où va-t-on? Bon, alors tout espoir n'est quand même pas perdu, car heureusement, ça bloque encore un peu par endroits. Vous savez, alors, il faut beaucoup de pédagogie. Hein. Beaucoup de pédagogie auprès des habitants, évidemment. Auprès des services techniques, mais au niveau des cimetières, ça bloque encore un peu en France. Ah ben c'est comme ça. On peut pas accepter un peu d'herbe folle, un peu par-ci par-là sur les trottoirs, oui, mais pas dans les cimetières. Les morts, paraît-il, n'aiment pas avoir du végétal à hauteur du plafond. Comme quoi l'expression « manger les pissenlits par la racine », ça quand même mérite d'être revu et corrigé. Mais alors ce que j'ai trouvé assez génial, c'est qu'il y a une lauréate qui était très heureuse, qui vraiment fait ce travail de zéro phyto dans sa commune depuis plus de 10 ans, et qui a dit très joliment « le zéro phyto, c'est une non-maladie contagieuse. Et alors, si vous en avez aussi assez de subir l'actualité, les bras ballants sans trop savoir quoi faire, si vous êtes coincé à l'intérieur par des pollutions diverses et variées, trop froid pour sortir courir, etc., et vous ne supportez plus cette impuissance à faire bouger les choses face à la situation, eh ben, le nez collé au carreau givré de votre fenêtre, vous allez pouvoir vous rendre utile. Oui, la Ligue pour la protection des oiseaux et le Muséum d'histoire naturelle ont besoin de vous, les enfants et de tout à chacun. Et ce week-end, eh bien, vous pouvez les aider en comptant pendant une heure les quelques piafs qui consentent encore à fréquenter votre mangeoire en hiver sur le balcon, dans le parc ou dans le jardin. Oui. Donc il suffit pas de déplorer les pertes vertigineuses constatées en nombre et en espèces des effectifs de nos petits copains ailés, hein, parmi les plus communs. Encore faut-il avoir des éléments chiffrés à présenter. Donc c'est un travail sympathique hein, qui est renouvelé chaque année, c'est la 5e édition et j'espère que vous en serez. Et un homme qui ne va pas du tout me dire le contraire, eh ben c'est Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour cher Alain.
Salut Denis.
Ça va bien?
Non.
Non, ben je sais bien.
Je suis désolé.
Ben je sais parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale?
Il s'est passé une chose mais incroyable qui a peut-être été effacée par l'affaire Fillon, mais quand même. Ségolène Royal a une question posée par un député qui lui demandait si on pouvait prolonger la chasse aux oiseaux, aux oies singulièrement, qui ferment en principe le 31 janvier, a tout simplement répondu, on est en plein cœur de l'hémicycle de la République, et bien que elle ne prendrait pas d'arrêté pour prolonger cette chasse, parce que ça serait cassé par le Conseil d'État. En revanche, il pourrait chasser pendant 12 jours de plus et elle fermerait les yeux. Ça s'appelle de l'incitation au braconnage. On est dans un état de non-droit et je trouve ça mais scandaleux. C'est un mépris à l'égard des scientifiques qui jugent indispensable l'arrêt de cette chasse, puisqu'on engage la période de reproduction, à l'égard de l'Agence de la biodiversité, au passage, qui vient d'être créée, bon, à l'égard de la plus haute magistrature, le Conseil d'État, voilà 20 ans qu'on casse toutes les tentatives de prolongation de chasse. À l'égard des associations comme la LPO et d'autres qui se battent pour faire respecter le droit.
Et alors, juste, pardonnez-moi Alain, c'est vrai que là on parle entre autres des oies cendrées, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des appelants. Alors les appelants ce sont des canards qui sont avec reliés avec un fil, enfin bon, pour appeler donc leur congénère, si j'ose dire. Et en même temps, alors là c'est autre chose, mais quand même...
En pleine période de grippe aviaire, où on demande à tous les éleveurs de rester cloîtrés, de ne pas sortir leurs animaux, de ne pas échanger et tout, alors qu'ils pourraient en avoir besoin. Et puis on autorise les chasseurs à sortir des canards d'élevage pour les mettre dans le milieu naturel sans aucun contrôle. Moi je vous dis que j'ai jamais vu un ministre qui avait montré une telle déconsidération à l'égard de la faune sauvage et une telle prétention à vouloir la préserver. Voilà.
Merci beaucoup, cher Alain Bougrain-Dubourg. Et puis, évidemment, on vous retrouve, ce sera demain matin, autour de 7h45, avec Baraton et Patricia Martin, sur France Inter. Voilà, donc c'était la petite actualité. Et tenez, on va commencer par un son tout à fait intéressant, puisque donc c'était cette semaine, c'était le fameux débat entre donc Hamon et Valls. Youpi ! Donc, nous allons avoir ce merveilleux son, puisque nous allons, avec Frédéric Denré, donc pouvoir détailler cela.
Benoît Hamon, vous dites que vous présentez et que vous avez le souci du bien-être des générations à venir. Vous avez même mentionné vos deux filles, je crois. Mais dans votre programme, il n'y a rien pour réduire les dépenses. Et donc les dettes, si vous faites cela, ce sont ces générations-là qui vont payer.
Mais monsieur Boulot, je ne sais pas si vous êtes père de famille vous-même. Avez-vous vu, que ce soit à Annecy, à Paris, dans le sud de la France, dans quel environnement faisons-nous grandir nos enfants? Quel monde allons-nous leur laisser? Aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens que moi je veux interdire, qui se trouvent dans des pesticides, qui se trouvent dans des aliments, aujourd'hui provoquent des pubertés précoces, des cancers nombreux, et nous ne faisons rien. On négocie avec les banquiers, pas avec la nature. Non mais des journalistes qui disent, est-ce que Benoît Hamon c'est menacer les générations futures que d'alourdir la dette. La dette, c'est aujourd'hui la dette environnementale.
Manuel Valls, alors vous avez critiqué Benoît Hamon là-dessus, mais quand on lit votre programme, il y a aussi pas mal de dépenses en plus.
Je partage l'idée, c'est ce que je propose, en matière de santé, parce que là nous parlons de la déficit ou des dettes ou des dépenses publiques, celles de l'État, mais il y a évidemment celle de la sécurité sociale, qu'une vraie politique de réduction ou de maîtrise de la dépense sociale passe par la prévention. On fait, pour le dire autrement, beaucoup trop de curatifs aujourd'hui, pas assez de prévention. Je pense que nous pouvons être capables d'assumer devant les Français de nouvelles dépenses. Autour de 15 à 16 milliards supplémentaires, nous devons cette vérité aux Français. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles dépenses en matière de sécurité, en matière de justice et en matière de défense.
Alors nous avions regardé le programme Fillon et Juppé à l'époque, on regarde là cette fois-ci le programme Hamon et Valls. Alors c'est intéressant parce que ce son en fait il arrive en fait à propos de la dette, hein, Frédéric Denré.
Oui, bah l'entrée pour nos confrères journalistes politiques c'est toujours l'entrée économique et c'est par l'économique qu'on en arrive à l'écologique et c'est d'ailleurs un des moteurs de la vision écologique de Manuel Valls, c'est santé environnement. Alors c'est une vraie rupture par rapport à avant.
Santé environnement.
Ça, ouais. On parle enfin à l'échelle des présidentielles du lien entre santé et environnement. Pourquoi? Parce que la santé, l'environnement dégradé entraîne des dépenses de santé considérables si on ne s'en tient qu'à ça.
15 ans ou 20 ans qu'on le fait dans cette émission. C'est pas grave.
Non, mais tout arrive.
Mais oui. Faut être opiniâtre et patient.
C'est ça. Et puis être d'un naturel optimiste, ce qu'on est. Et chez Benoît Hamon, là, par contre, il y a une vraie différence. Hein, chez Benoît Hamon, c'est un programme écologiste. Tout simplement, vous prenez un programme.
C'est-à-dire qu'il y a un lien total entre le social, l'environnemental, avec une critique de la croissance.
Ah ben, c'est un programme de rupture avec l'idéologie social-démocrate portée portée par Manuel Valls. Il y a une vraie différence entre les deux sur l'importance de l'écologie. Elle est vraiment consubstantielle chez Hamon. Elle existe chez Valls, mais chez Valls, l'entrée, c'est la santé.
On regarde le nucléaire.
Alors sur le nucléaire, tous les deux de fait ont acté que fallait passer à autre chose. Chez Valls, c'est moins frappant. Chez Valls, on maintient le nucléaire tant qu'on peut. Chez Hamon, on ferme les centrales en fin de vie et les centrales réputées dangereuses. Donc on va plus vite, plus loin vers la transition énergétique, vers la part augmentée des énergies renouvelables.
Alors transition énergétique, on a quand même un petit peu regardé l'affaire. C'est pas si évident que ça, parce qu'on est encore un peu dans du flou, dans des choses qui sont pas totalement chiffrées.
Ah, c'est pas chiffré, c'est même, il y a vraiment un énorme flou. Hein. Hamon, le socle de son programme énergétique, c'est objectif de 50% d'énergie renouvelable dès 2025. Mais il ne dit pas de quelle énergie il parle. Il ne dit pas si c'est 50...
consommation ou production.
Que ce soit consommation ou production, compte tenu des objectifs déjà actés, ça paraît pour le moins assez hasardeux, voire irréaliste. Donc ça mériterait d'être clarifié. J'espère que ça le sera dimanche.
Pour Valls.
Pour Valls, il n'y a pas grand-chose. Je suis au regret de vous le dire. Si ce n'est, voilà, on encourage les énergies renouvelables, très bien, mais ça va pas plus loin dans le chiffrage de baisse de la consommation de production. En tout cas, tous les deux ont acté le fait que le tout nucléaire c'était fini.
Sur l'agriculture,
l'entrée de Manuel Valls, elle est toujours la même. C'est santé environnement sous une terminologie qui est assez particulière. Le double respect des travailleurs du secteur agricole et des consommateurs. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais respect qui passe par...
Bon, on peut comprendre si ça...
C'est pas mal. Et puis, une aide aux agriculteurs pour essayer d'être un peu plus costaud face à la grande distribution, mais en tout cas, c'est santé environnementale, alors que chez Hamon, on va beaucoup plus loin parce que on pousse à privilégier dans le foncier agricole, dans l'attribution du foncier agricole lors de la reprise d'une ferme, on priorise les projets bio et agroécologiques.
Là, c'est une révolution quand même.
Priorité
de l'attribution du foncier donc pour les projets bio et agroécologiques.
Ouais. Voilà. Et puis chez Manuel Valls, on pousse au circuit court, on pousse aux cultures maraîchères autour des villes et on pousse au circuit court, notamment via la création d'une agence régionale, je vais vous retrouver son nom, pour un développement non pas durable, non pas pérenne, mais tempérant, c'est un nouveau terme.
Tempérant,
c'est pas mal.
Oui, c'est joli.
C'est assez joli. Donc, bon. Qui aurait pour but de favoriser les circuits courts, de mobiliser le numérique pour relier producteurs et consommateurs, les initiatives